Flash Actualité Birmanie, aujourd'hui avec nous Anne Montmoton. Bonjour Anne.
Bonjour.
Anne, tu es chargée de pays, chargée de la Birmanie plus particulièrement. Ça fait 12 ans que tu suis ce pays pour Enfants du Mékong. Ça fait 13 ans ?
16 ans.
16 ans que tu es chez Enfants du Mékong.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire un mot d'abord sur la situation actuelle du pays après le 1er février, le coup d'État des militaires ?
Oui, alors le 1er février, les militaires ont pris le pouvoir, ont renversé le gouvernement civil qui était en place depuis plusieurs années. En fait, depuis novembre 2020, ils contestaient les élections législatives qui avaient vu la victoire de la Ligue nationale pour la démocratie qui est... le parti politique qui porte le gouvernement, enfin qui portait le gouvernement actuel. Donc suite à ces élections qui ont été contestées depuis le départ par les militaires, donc il y a eu ce coup d'État. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il y a eu un mouvement de protestation de la part de la population assez, enfin massif et assez inattendu en fait pour les militaires.
C'est le fameux mouvement de désobéissance civile.
Voilà, c'est ça. Qui a commencé en fait par les employés des hôpitaux, les médecins, assez vite rejoints par les employés des banques, des fonctionnaires, qui ont refusé d'aller travailler, qui sont descendus dans la rue pour protester contre le coup d'État. En fait, à part les milieux de l'armée, enfin proches de l'armée, la population birmane n'était pas du tout préparée au fait que les militaires puissent revenir.
Et la réaction qu'ils ont choisie, c'est de bloquer le pays comme ils le pouvaient en faisant grève.
Voilà, exactement. Pour ces personnes qui manifestent, ça a eu beaucoup d'impact parce que ils sont pas payés. C'était assez engageant en fait de manifester, de faire grève.
On imagine bien que ça change radicalement la vie quotidienne des Birmans, de tous les Birmans.
Oui.
Quel type d'impact ça peut avoir dans le quotidien ?
Les magasins sont fermés, les banques aussi. En fait, le personnel de banque, beaucoup ont démissionné, donc l'argent ne circule plus. Alors ça fait plus d'un mois maintenant que les gens tiennent. Alors au départ, ils pouvaient retirer aux bornes automatiques, mais maintenant, ce n'est plus tellement le cas. Donc ça va devenir critique en fait. Ce qui est difficile, c'est que ce sont le personnel qui font grève, donc le mouvement des obéissances civiles qui bloque la réouverture des banques. Après, les réseaux sociaux en fait qui alimentent énormément la contestation et Internet est fermé pendant la nuit. Ce qui se passe aussi, c'est que parce que bon, disons que pendant un mois, trois semaines, qu'il y a eu ces énormes mouvements de manifestations, qui a culminé le 22 février, il y a eu plus d'un million de personnes un peu dans tout le pays. C'est pas que Rangoon, hein, la capitale économique, c'est vraiment les grandes villes, même dans certains villages, les gens manifestent contre le coup d'État. Pendant trois semaines, il n'y a pas eu tellement de répression, les policiers voilà, ne faisaient rien, et depuis le 27-28 février, il y a une répression violente avec des tirs, il y a plus de 50 morts. Les militaires, en fait, repèrent les gens pendant la journée, et puis font des arrestations arbitraires pendant la nuit. Donc les gens ont peur maintenant, surtout à Rangoon.
Oui, donc dans la contestation, il y a un vrai risque pour la vie des personnes qui manifestent,
oui.
Qui descendent dans la rue aujourd'hui.
Oui,
alors,
tout à fait, oui.
Cette crise politique, elle suit une crise sanitaire, donc c'est un petit peu... aujourd'hui, double peine pour les Birmans. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la vie scolaire ? Puisque nous, on est une ONG de parrainage scolaire. Les jeunes qu'on accompagne, la plupart du temps, sont soit à l'école, soit à l'université. Comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui dans leur vie, ces crises, à la fois la crise du Covid et puis aujourd'hui la crise du coup d'État ?
Oui, le Covid, en fait, depuis mars 2020, avait entraîné un confinement qui était relativement strict en Birmanie, mais il y avait très peu de cas de personnes touchées par la maladie. L'année scolaire en fait se déroule entre juin et fin février. En fait, en mars, avril, mai 2020, ça correspondait aux grandes vacances, donc ça changeait pas grand-chose. Les écoles n'ont été rouvertes qu'au mois d'août, surtout pour je crois essentiellement les grades de lycéens. Et puis, le Covid est arrivé en septembre. Et là, ils ont refermé les écoles qui n'ont pas rouvert jusqu'à maintenant. Donc, l'équivalent du bac, qu'on appelle le matriculation exam, qui est un examen très attendu par les étudiants, n'a pas eu lieu. Et là, on est à nouveau retombé dans les grandes vacances scolaires. Alors, les militaires ont demandé à ce que les écoles réouvrent, mais bon, il n'y a pas de jeunes, ce que m'ont dit les responsables. Les professeurs font partie de ceux qui manifestent le plus dans ce mouvement de protestation. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes qu'on soutient n'ont été à l'école qu'un mois, pour beaucoup. Ceux qui sont dans leur famille, les responsables qui sont à proximité ont essayé d'organiser des cours à domicile. Ceux qui sont en foyer, il y a eu aussi des cours qui ont été organisés. Là, il va y avoir des camps d'été pour leur permettre de mettre le pied à l'étrier et de reprendre l'école au mois de juin, si tout se passe bien. Voilà, après, si on parle du parrainage, c'est toujours très utile parce que dans ce temps de pandémie où les pères de famille, les mères de famille ne pouvaient pas travailler, ça a permis de faire vivre et de nourrir les familles.
Bien sûr. Alors du coup, ces enfants sont dans les familles. Est-ce que pour ceux qui sont hébergés en foyer, ces structures sont restées ouvertes? Comment ça se passe? Ou est-ce que les jeunes sont tous retournés dans leur famille?
Ça dépend des lieux. Par exemple, tout au nord, à Putao, c'est le nord de l'État Kachin, le père a gardé les enfants parce qu'ils habitent trop loin, ils sont à la frontière chinoise. Donc lui, il a fait le choix de les garder et de donner cours. Donc ça, en fait, ça ne changeait pas grand-chose pour eux. Mis à part qu'ils n'allaient pas à l'école la journée, ils étudiaient au foyer. Après, la plupart des foyers sont restés ouverts avec la moitié des effectifs. Et puis les autres repartaient dans leur famille. Voilà, ça dépend de ce que faisait un petit peu chaque responsable de programme. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la plupart sont très... Ils savent vraiment s'adapter, ils sont résilients. Moi, je suis assez frappée parce qu'ils restent vraiment en contact avec les jeunes et leur famille par différents biais. Ils arrivent à distribuer l'argent par un système qu'on appelle Wave Money. Je ne saurais pas vous expliquer, mais ce n'est pas par la banque.
En fait, les responsables de programme ont trouvé des moyens pour court-circuiter un petit peu le système bancaire qui, pour l'instant, est figé en Birmanie.
Bon, après, ce système de Wave Money, ça existait déjà avant. Ce que je veux dire, c'est qu'ils essayent par tous les moyens de faire parvenir l'argent et ils y arrivent. Et sinon, ils mettent dans les villages très reculés où certains jeunes sont repartis. De toute façon, c'est une vie en autarcie. Donc, ils mettent l'argent de côté pour ces jeunes-là. Et ils le distribueront quand les jeunes reviendront.
Donc on voit que le parrainage, ça reste un outil qui est indispensable pour soutenir ces populations. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres moyens pour venir en aide et soutenir la population de Birmanie qui subit ces crises de plein fouet?
Alors, Enfants du Mékong avait soutenu des projets d'aide alimentaire. Donc un peu plus ponctuel, donc ça on continue à le faire pour aider ces populations dans le besoin avec voilà tous ces événements. Ensuite, de loin, ce qu'on peut faire, c'est prier si on est chrétien, si on pense que la force de la prière sert à quelque chose. Mais voilà, ou penser à eux. Enfin, ils attendent vraiment un soutien moral de notre part. Ça, ils le disent beaucoup.
Tu me disais tout à l'heure, Anne, que le lien avec les responsables de programme de la part du siège, notamment, d'Enfants du Mékong à Asnières, était indispensable, que c'était vraiment un soutien pour eux. Toi, dans ton quotidien, tu es en contact avec ces responsables de foyer, avec ces personnes qui sont à Rangoon, auprès de nos jeunes, tu les appelles régulièrement?
Oui, je suis en contact quasi quotidien, soit avec la personne qui s'occupe du comité de traduction, par exemple, que j'ai eu ce matin. On a 3 employés locaux sur place, et puis celle qui s'occupe des jeunes du foyer de Rangoon aussi, et puis une troisième qui actuellement est bloquée dans le sud depuis le début du Covid, mais qui m'aide beaucoup pour faire tourner l'action. D'enfants du Mékong. Après, les responsables, on les a aussi parce qu'on est 2 à travailler sur la Birmanie, avec Mathilde, on les a par Facebook, par Viber, ça marche assez bien. Viber, c'est un WhatsApp asiatique, on va dire, enfin très utilisé en Birmanie. Et voilà, et c'est vrai que ça, ce lien avec les responsables par téléphone, c'est vital pour eux, je pense, parce que je leur dis qu'on pense à eux, etc. Et puis aussi pour nous, pour rester connectés à ce qui se passe et essayer de voir comment on peut les aider.
Il y a le lien avec les responsables et puis il y a le lien avec les jeunes. La poste aujourd'hui ne marche pas forcément en Birmanie. Comment est-ce que nos parrains peuvent écrire à leurs filleuls malgré tout, les soutenir et leur dire qu'ils pensent à eux?
Eh bien, les parrains peuvent envoyer par mail leurs lettres à Mathilde ou moi-même et on les fera parvenir du coup par Internet à Rangoon.
Il y a une adresse email du coup qu'on peut donner?
Oui, bah, c'est notre adresse qu'ils peuvent trouver sur le site. Internet. Et voilà, après, moi, je dis aussi quand même qu'il faut, s'ils peuvent envoyer par la poste, qu'ils le fassent aussi, parce que des lettres arrivent de toute façon. Même si la poste française dit ne pas desservir cette destination, il y a des lettres qui arrivent. Donc, ça prouve que ça marche quand même.
Donc, il faut pas hésiter.
Donc, faut pas hésiter à envoyer des lettres, ouais. Par mail, par Internet, au siège, mais également directement, comme d'habitude, à l'adresse qui n'a pas changé du comité de traduction.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Anne, pour ces éléments. On essaiera de maintenir un petit peu le lien et de vous informer s'il y a des nouvelles du terrain qui arrivent au fur et à mesure. On a évidemment une pensée pour tous nos responsables de programme et tous les jeunes qu'on accompagne en Birmanie. Et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Merci.